Pour un t-shirt fabriqué au Bangladesh et vendu 29 euros. Un ouvrier gagne 18 centimes, le magasin qu'il commercialise en bout de chaîne empoche lui 17 euros. 4% de l'eau potable disponible dans le monde est utilisée pour produire nos vêtements. Il faut l'équivalent de 70 douches pour un t-shirt et 285 pour un simple jean. 500 000 tonnes de microparticules de plastique sont lâchées dans les océans chaque année par l'entretien en machine de vêtements synthétiques. Les chiffres sont nombreux et vertigineux. Ils campent surtout le double problème posé par l'industrie du textile. Son impact majeur sur l'environnement et les conditions de travail déplorables imposées dans les usines. Comment on arrête les frais et faut-il en finir avec la malfringue, vite consommée, vite digérée, vite jetée? J'attends vos questions et vos réactions sur Twitter et sur franceinter.fr. On parle chiffon jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Nadia Dam sur France Inter.
Est-ce possible de s'habiller sans détruire la planète et sans se ruiner? Pour y répondre, j'accueille mes trois invités. Bonjour Géraldine Florin.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes directrice des partenariats et des événements du Salon international du vêtement et des accessoires Who's Next, qui va se tenir la semaine prochaine, dans quelques jours, du 6 au 9 septembre à Paris, avec une nouveauté cette année. Il va y avoir un événement qui sera entièrement dédié à la mode éco-responsable. À quoi ça va ressembler cet événement?
Alors cet événement, c'est une plateforme de rencontre en fait. On a la volonté de rassembler les acteurs majeurs parce qu'effectivement c'est un vaste sujet. Le chantier est immense, mais les travaux sont en cours et il y a beaucoup d'actions. Mais c'est aussi comment aider à se renseigner, à partager, à trouver des solutions ensemble. Donc on éveille en fait, on n'a pas la prétention de convaincre et de donner la solution à tous les problèmes. Mais en tout cas on a l'ambition d'éveiller, de partager
et d'informer. En face de vous, Yoann Petiot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Alliance de commerce, du commerce, qui réunit donc des grands magasins et des enseignes de l'habillement et de la chaussure et qui a publié au début de l'été un guide des bonnes pratiques à destination précisément de ces enseignes françaises. Puis avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Occitanie. Bonjour, Madjouine Zbaï.
Bonjour.
Vous êtes sociologue spécialisée dans les questions d'environnement et vous avez publié en 2018 « Une mode éthique est-elle possible ?». On joindra également plus tard dans l'émission Marie-Laure Guilin de l'association Sherpa pour faire un point sur les leçons tirées par les entreprises françaises après l'effondrement meurtrier du Rana Plaza en 2013 au Bangladesh. Une première question d'actualité pour vous. Aujourd'hui, en marge du G7, 30 acteurs du textile vont présenter à Emmanuel Macron ce qu'ils appellent un « fashion pact ». C'est une coalition de marques comme Gap, H&M, Prada, qui s'engagent à améliorer l'impact de leurs produits sur l'environnement. Il y a un texte qui est ni contraignant ni associé à des objectifs chiffrés et qui laisse beaucoup d'ONG assez dubitatives. Madjouline Zbaï, est-ce que vous partagez leur scepticisme? Il ne va pas assez loin, ce texte, présenté cet après-midi au président de la République?
Alors, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'il y a une exigence d'objectifs chiffrés, c'est-à-dire qu'on dit clairement qu'il faut réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050, etc., etc. Après, chaque entreprise ne s'engage pas elle-même sur des chiffres et il n'y a pas de contrainte effectivement. Donc moi, je pense que reconnaître collectivement qu'il y a un problème, reconnaître que ce soit des objectifs collectifs, c'est-à-dire zéro carbone, zéro plastique, etc., c'est une avancée. Maintenant, ce qu'il faut, c'est une exigence dans la mise en œuvre. Il faut que chaque entreprise ait aussi des objectifs chiffrés pour atteindre ce but commun. Parce que sinon, effectivement, ces démarches-là ne servent à rien. Donc, moi, ce que j'attends, c'est la déclinaison opérationnelle. Il faut savoir que c'est pas la première initiative de Jean, puisque nous-mêmes, moi-même, dans la région des Hauts-de-France et avec des entreprises françaises, sur l'économie circulaire, on a une démarche similaire. Mais l'année prochaine, par exemple, on demande aux entreprises engagées de présenter un bilan des actions,
un
bilan de la réduction des impacts environnementaux réels que permettent leurs démarches.
Yoann Petiot, sans feuille de route, sans texte de loi, on doit croire H&M quand ils promettent qu'ils vont verdir leur production? On les croit sur parole?
Je ne sais pas s'il faut les croire sur parole. Il y aura un travail des ONG, il y a des rendez-vous annuels qui sont annoncés dans le Fashion Pact pour justement qu'on puisse établir un bilan véritable de ce qu'il y aura dans le pacte. Mais je crois que ce pacte aujourd'hui quand même signifie véritablement une prise de conscience, en tout cas du secteur, de son impact environnemental et social, et qu'il est urgent de se transformer. Ça, je pense qu'il est important de le saluer. C'est une initiative forte, mais les marques n'ont pas attendu aujourd'hui pour prendre des actions et des initiatives. Si on on cite une marque française qui n'est peut-être pas dans le pack, mais qui est importante sur notre marché, Kiabi, qui était le leader de la mode enfant.
L'enseigne à petit prix.
Voilà, a annoncé au printemps qu'il aurait une offre 100% responsable à raison de 2030. Les Gary Affet, qui eux sont dans le Fashion Pact, ont lancé dès l'année dernière leur action Go for Good pour inciter le client à aller vers des produits qui sont responsables. Donc aujourd'hui, c'est un peu le Fashion Pact est un peu voilà, des engagements collectifs qu'il est important de prendre et qu'il faudra suivre si le travail des ONG, et elles pourront le faire chaque année. Mais d'ores et déjà, il y a de nombreuses actions qui sont déjà mises en œuvre et qui est important de rappeler.
Allez, on continue à faire le bilan carbone et humain de la mode juste après Madonna Vogue.
Oh.
France Inter, il est midi 17 au menu du débat de midi préparé par Anna Massardier et Camille Kaufmann, la mode et ses conséquences écologiques et sociales. Je voudrais vous lire une réaction d'auditeur, c'est Jean-Christophe qui nous écrit ceci sur franceinter.fr. La mode n'est pas un besoin, juste une machine à consommer. Il est donc possible de s'en passer, d'acheter un vêtement et de le porter jusqu'à ce qu'il soit suffisamment abîmé. Ça interroge notre surconsommation. On achète aujourd'hui deux fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans, Géraldine Florin. Comment on l'explique, cette boulimie du vêtement?
Alors, c'est tout à fait vrai. Donc, il y a plusieurs phénomènes. Le phénomène des tendances de la mode. En fait, il faut bien différencier le vocabulaire entre la mode, les tendances, le vêtement. J'aime bien Valentine Gauthier, justement, qui parle de vêtements et pas de mode. Qui est une créatrice qui a été vraiment précurseur dans la mode éthique et qui ne parle pas de mode, mais de vêtements. Il faut bien différencier les choses. C'est vrai qu'il y a une hystérie vraiment de la mode à créer 12 collections par an. La fast fashion qui présentait et qui présente d'ailleurs toujours des produits toutes les deux semaines.
La fast fashion, en quelques mots, c'est les grandes enseignes type H&M, Zara.
Les grandes enseignes, exactement, qui renouvellent leurs collections toutes les deux semaines.
On appelle la fringue jetable.
La fringue jetable, produire toujours plus vite, pour toujours moins cher, qui a énormément bousculé évidemment le marché et qui a confondu un peu justement la mode dans son sens noble, qui peut être très noble avec la couture, avec la jeune création, avec le savoir-faire, parce que c'est surtout ça la mode. Il faut différencier effectivement la slow fashion, ce qu'on appelle slow fashion, en parallèle justement de la fast fashion. Et c'est vrai qu'il y a eu ce mouvement un peu hystérique des médias, aussi de la presse, où il fallait un jour être hippie, le lendemain bohème, le lendemain chic ou rock. Et il faut revenir à du calme, à du style et à un respect du vêtement, de la logique, en fait, du bon sens tout simplement. Et c'est vraiment le travail de la mode responsable au sens large.
Madjoulin Sbaï, une obsolescence programmée du vêtement, des enseignes qui fabriquent le vêtement précisément pour qu'il soit importable au bout de 6 mois et qu'il faille en racheter un autre.
Alors, je ne sais pas s'il y a une stratégie aussi aboutie pour créer, je dirais, une obsolescence matérielle du vêtement, c'est-à-dire qu'il se dégrade tellement qu'on ne puisse pas le porter. Ce qui est sûr, c'est que les conditions de fabrication, la qualité de la fabrication, forcément, quand on recherche le coût le moins cher, il ne peut pas être toujours au rendez-vous. Donc, il y a une obsolescence matérielle du produit, puis il y a une obsolescence des tendances. Et il y a cette course folle à l'envie d'acheter avec cette multiplication des collections et ce réassort permanent dans les magasins et des stratégies marketing très offensives qui poussent à acheter. Et effectivement, à la fin, on se retrouve dans une situation où la moitié de ce que nous avons dans notre placard, nous ne le mettons pas.
70% de notre garde-robe serait pas ou peu utilisé.
Voilà.
Vous confirmez ce chiffre?
Oui. Ben, enfin, c'est les chiffres, les enquêtes qui ont pu être faites auprès de ménages, de la population, qui se basent sur du déclaratif. Et ce constat, il est, tout le monde peut le faire. Hein. Tout le monde peut ouvrir son placard et regarder effectivement ce qu'il porte, ce qu'il ne porte pas.
Je vous confirme, on est effectivement aux alentours de 70% me concernant.
Voilà. Et on va mettre, finalement, on utilise peu de choses. Enfin, on porte beaucoup moins de choses que ce qu'on a réellement. Et on en a envie encore. Et donc, c'est tout le souci, c'est que ce gaspillage, il a lieu à toutes les étapes. Il a lieu au moment où il y a des invendus et des invendables, c'est-à-dire qu'il y a des vêtements qui sont produits et qui ne seront jamais portés par personne. Et ensuite, il y a aussi, effectivement, en bout de chaîne, des vêtements qu'on a achetés et qu'on ne portera pas. Et c'est déjà, si on réduisait ça, c'est un peu comme pour le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire que déjà, si on arrêtait le gaspillage vestimentaire, c'est-à-dire qu'on ne produisait que ce qu'on sait qu'on va vendre ou quasiment sûr que ça va être vendu et acheté.
Production raisonnée, oui.
Voilà, et déjà, enfin, de toute façon, aujourd'hui, le mantra, vraiment le principe de base, c'est le produire moins mais mieux. Il est impensable que nous puissions faire évoluer, rendre la mode responsable, comme pour d'autres secteurs d'activité, sans assumer le fait qu'il va falloir produire moins mais mieux et vendre moins mais mieux. Moins mais mieux, ça veut dire aussi repenser le business model, les marges, etc. Mais c'est une autre, sinon on ne sera pas au rendez-vous collectif, qui est comment on répare les dégâts qu'on a fait sur la planète, comment on crée les conditions de vie futures pour l'homme et comment collectivement on améliore la situation. Donc du coup, vraiment le gaspillage vestimentaire, cette notion de moins mais mieux, elle doit être centrale dans toutes les démarches qui seront entreprises aujourd'hui.
Johan Petiot, produire moins, ça ne va pas arranger les affaires des commerces et des enseignes que vous représentez, non ?
Non, ça ne va pas arranger leurs affaires, d'autant plus qu'elles ne sont déjà pas au beau fixe depuis maintenant 10 ans. On parle d'un monde qui aujourd'hui est déjà en train de s'éteindre. Depuis 10 ans, le marché de l'habillement en France a perdu 15% de sa valeur, est en chute libre, et on repère encore cette année
Oui, mais les marques que vous représentez, sont-elles prêtes à baisser la cadence, à produire moins de vêtements ?
Alors, c'est tout un système qu'il faut changer. On voit qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une certaine intoxication à la promotion aussi, et au rythme de collection importante, qu'il faut en effet ralentir. Mais aujourd'hui, elles n'auront presque plus le choix. C'est-à-dire, on est face à un modèle économique qui est à bout de souffle. On a fait moins 15% de chiffre d'affaires ces 10 dernières années. La part du budget des Français qui est consacré à l'habillement est en chute libre. C'était 9% en 1960. Aujourd'hui, c'est simplement 4%. Parce qu'aujourd'hui, on préfère dépenser dans les loisirs. On préférait partir en week-end en avion à pas cher, mais qui consomme aussi et qui a un impact environnemental fort, que vous achetez les vêtements. Donc, on est déjà dans un système où la consommation baisse. Il y a 60% des consommateurs qui ont acheté moins de vêtements l'année dernière. Donc on est déjà dans ce système-là de déconsommation et il faut en effet recréer de la valeur, et on recrée de la valeur en produisant mieux et en produisant des vêtements de meilleure qualité, mais qui doivent rester accessibles.
Ah, alors précisément, Géraldine Florent, c'est quoi le bon prix d'un vêtement aujourd'hui ?
Le juste prix. Voilà, c'est le juste prix. Donc, c'est pas une question de accessible, c'est une question de prix juste et de marge juste. Ça me surprend toujours quand on me dit qu'on trouve une pièce chère. Qu'est-ce que ça veut dire cher, en fait ? C'est vrai qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions sur ce que vaut ce produit. Est-ce qu'on a envie de payer Negeri, de payer Bella Hadid ou Kate Moss, ou est-ce qu'on a envie de payer une pièce par rapport à une traçabilité, à une personne? Je pense à Sakina Emsa qui fabrique à Paris avec de la réinsertion, avec des produits plus intemporels, avec des chutes de grandes maisons. Elle ne communique pas forcément dessus, mais c'est quand même d'une extrême qualité des matières. Et quand on a de belles matières, une belle production, du sens avec un respect de l'humain, oui, peut-être que le t-shirt va être à 40€ au lieu de 5€ chez H&M, et peut-être qu'on en achètera un au lieu de plusieurs, mais il tiendra plus longtemps. Et donc, c'est encore une fois, c'est de l'éducation. Et il vaut mieux acheter moins, mais mieux. Moi, je suis pro seconde main aussi, quand on a des petits budgets, ce qui arrive à tout le monde à des moments de vie, ou quand on est étudiant, ou quand on n'a pas la chance d'être à Paris, d'avoir beaucoup de choix, il y a toujours la seconde main, il y a Kilo Shop, il y a Bernard Graff et Eric Rey qui font un travail colossal aussi sur la seconde main avec les cultures vintage, Kilo Shop, que les galeries Lafayette distribue, puisque j'ai travaillé pour les galeries, ils l'ont bien sûr entré, et donc on les trouve aussi dans des villes comme Amiens ou Clermont-Ferrand. Donc en fait, c'est vraiment, un, avoir une prise de conscience. Qu'est-ce que c'est que le prix juste ? Je fais toujours un parallèle avec l'alimentation, mais c'est pareil. On prend un saumon, une vraie tranche de saumon, ou du saumon à dessous bourré d'eau et de colorants. Et, et pour la mode, c'est pareil. C'est qu'est-ce que j'ai derrière mon prix ? Et là, on pourra dire si c'est un prix juste et une marge juste.
Le textile éthique, est-ce que c'est pas au fond une préoccupation de consommateurs aisés ? C'est-à-dire que parmi les clients de la fast fashion, d'H&M dont on parlait tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont tout simplement pas les moyens de mettre plus que 12 ou 15 euros dans un t-shirt. Et c'est pas forcément audible pour eux ce que vous êtes en train de dire, de se privilégier la qualité.
Non, alors pour moi c'est pas du tout une question. Alors c'est encore une fois comme l'alimentation.
Je me fais l'avocat du diable.
Oui, mais tout à fait, tout à fait. En plus, je viens du Nord, je suis lilloise, donc je connais des personnes de absolument tous les milieux. Et c'est pas du tout, bien au contraire, parfois les personnes les plus aisées qui consomment le mieux. Parce qu'il y a aussi Emmaüs, parce qu'il y a aussi des brocantes, des marchés de la seconde main partout. Donc c'est vraiment une volonté, en fait. Alors c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus, ça demande un peu plus de temps et de conscience d'aller acheter plus responsable que d'entrer chez H&M ou chez Zara qui sont partout dans tous les centres-villes et où c'est très facile et pas cher. Mais pour un même prix, on peut effectivement s'habiller aussi correctement. Encore une fois, chez Kilo Shop, on peut acheter un jean Levi's increvable à 10 ou 12 euros, et ça ne sera pas plus cher que chez H&M, sauf qu'on le gardera beaucoup plus longtemps.
Majdoline Sbai, c'est quoi le juste prix d'un vêtement ?
Le juste prix d'un vêtement, c'est difficile de le définir. C'est-à-dire que si on raisonne budget mensuel ou budget annuel, c'est-à-dire que finalement, la démonstration qu'on a fait tout à l'heure, quand on disait qu'il y avait un vêtement sur deux dans notre placard que nous ne mettions pas, ça veut dire que déjà, si on a acheté moins mais mieux, on a deux fois plus de budget.
Et qu'on jetait moins aussi, voilà. Parce qu'on est les champions du gaspillage.
Voilà.
Et
donc du coup, déjà, si on raisonne son budget, on se dit si j'achète que des choses que je vais porter, et porté longtemps, et porté souvent, eh bien déjà j'ai un budget plus conséquent. Donc vous disiez que vous veniez du Nord, justement, il y a une expression dans
Géraldine
le Nord qui
Florin,
dit,
Géraldine Florin,
je viens du Nord, il y a une expression dans le Nord qui dit « je ne suis pas assez riche pour acheter pas cher ». C'est-à-dire que finalement, la question de la durabilité, de la qualité et du bien choisir est importante pour bien gérer son budget. Maintenant, si on raisonne autrement, c'est-à-dire que vraiment, il y a des gens qui ont un tout petit budget pour acheter un vêtement. C'est vrai qu'il y a un sujet sur la transformation de l'offre et de rendre accessible une offre vestimentaire qui soit bien produite dans de bonnes conditions
qualité, ouais,
à tous. Et ça devrait être, il devrait y avoir une norme minimale où les conditions de fabrication, les impacts environnementaux, etc., soient suffisamment bien régulés pour qu'on ait une offre quand même accessible à tous. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même une partie de la population qui a les moyens et qui fait fonctionner toute une industrie de la mode qui, elle, est à des prix moyens ou voire plus chers. Et donc, cette offre a les moyens de changer puisqu'il y a des clients qui sont capables de payer et qui pourraient se tourner vers une mode plus responsable, vers des créateurs que vous savez citer. Nous, on les réunit chaque année au Forum de la mode circulaire. Il y a plein d'initiatives en France, plein de sites qui les référencent. Il y a plein de créateurs ou d'entreprises
avec des,
comme 1083,
avec des prix
la Bonne Gardienne.
Avec des prix accessibles
qui sont
à tous.
Des prix,
j'insiste
sont
hein,
des
sur cette
plus
question
plus élevé,
du prix, c'est
mais par exemple, si vous prenez le jean 1083, il est au prix du, c'est le même 1083 qui est fait à Romans-sur-Isère, avec une vraie traçabilité. C'est le même prix qu'un jean Levi's. C'est pareil pour les jeans Tuffery qui aujourd'hui travaillent pour aussi faire des jeans en chanvre, qui innovent sur le choix des matières avec des productions qui sont 100% locales. Donc, il y a une mode responsable qui aujourd'hui est à des prix non pas. C'est ce que je disais. Je parle là des gens qui ont un budget pour pouvoir s'habiller. Il y a quand même pour une partie de la population la possibilité de booster ces entreprises, toutes ces créateurs, toutes ces initiatives, d'ailleurs y compris quand elles sont portées par des grandes entreprises, qui permettent de soutenir une autre mode que celle qu'on connaît aujourd'hui et qui a les impacts dont vous avez parlé au début de l'émission. Mais pour les petits budgets, il y a le seconde main et il y a aussi l'enjeu effectivement de rendre que la norme ce soit que les productions qui soient proposées au plus grand nombre ne soient pas aussi destructives qu'elles le sont aujourd'hui. Et c'est tout l'enjeu des démarches collectives dont on parlait tout à l'heure, qui sont animées partout par des associations, des ONG ou par des initiatives.
Une question sur le seconde main. Est-ce qu'on a des chiffres sur la tendance que ça représente aujourd'hui? Est-ce que les Français ont de plus en plus souvent recours à la seconde main chez Emmaüs, sur le site Vinted? Ça progresse en France?
Alors, on a la déclaration, c'est qu'un Français sur deux a acheté un vêtement de seconde main l'année dernière. Sinon, c'est que
beaucoup, hein.
L'Institut français de la mode parle d'un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros l'an dernier. Mais il y a toute une partie aussi, je pense, qui n'est pas forcément qui est dans l'économie informelle, puisque vous avez les brocantes, les vide-dressing, les échanges qui peuvent se faire, le troc, les trocs parties. Enfin, il y a tout un secteur qui se met
c'est
en place.
C'est quoi une troc partie? Pardon, je connais pas.
C'est un des exemples qu'on peut citer, mais c'est les gens troquent des vêtements, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils échangent des vêtements. Alors ça peut se faire même dans, il y a des événements où ils louent des espaces collectifs. J'ai vu ça dans l'Ouest, dans un article de presse. Enfin voilà, il y a énormément d'initiatives aujourd'hui, et c'est vrai que les chiffres qui sont annoncés, c'est que d'ici à 2027, c'est le chiffre que tout le monde cite en ce moment, mais la seconde main représentera plus que la fast fashion. L'allongement de la durée de vie d'un vêtement, c'est un facteur de réduction des impacts environnementaux, puisque finalement on ne va pas reproduire un nouveau vêtement, pas reprélever des ressources naturelles, etc., etc. Donc c'est vraiment déterminant et ça peut aussi créer de l'emploi.
Yoann Petiot, il faudrait plus de transparence et d'informations. Il faudrait que le client il soit averti du coût environnemental du vêtement, un peu comme ça se fait pour l'électroménager aujourd'hui. On sait avant de passer en caisse ce que ça représente pour l'environnement et pour la planète.
Bien sûr, je pense que ça participe en tout cas de la sensibilisation du consommateur, de lui apporter une information. Il faut savoir maintenant quelle est la bonne information et la bonne manière de lui transmettre. Il y a à ce sujet un projet de loi sur l'économie circulaire qui va arriver à l'Assemblée nationale et au Sénat à l'automne, qui prévoit justement de renforcer cette information environnementale qui sera transmise aux consommateurs.
Ça prendrait quelle forme? C'est sur l'étiquette?
Voilà, c'est sur une étiquette. C'est pas encore très précis sur les informations qui seront transmises. Nous, ce que l'on pense, c'est qu'il ne faut pas transmettre trop d'informations pour qu'elles soient lisibles et compréhensibles, mais qu'on arrive à les réunir au sein d'une note, comme ça se fait sur l'électroménager, qui passe par lettres A, B, C, D ou D, ouais. Qui permettent de manière très rapide au consommateur de bien comprendre quel est l'impact environnemental de son produit. Mais encore une fois, j'insiste, attention à ne pas parler de marché de niche. Si on veut que ce soit le secteur dans son entier qui se transforme, il faut véritablement que cette mode responsable soit accessible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les grandes chaînes de mode accessibles à petit prix changent aussi et s'engagent vers une démarche responsable. C'est ça qui montre vraiment que c'est le système dans son entier qui va changer.
La marque Decathlon l'a testé il y a un an, ce système de label sur les vêtements. On sait quel effet ça a eu sur les achats, une fois que le consommateur est informé de l'impact écologique d'un vêtement.
Je n'ai pas connaissance de bilan de cette expérimentation, mais c'est comme tout, c'est-à-dire que plus elle sera massive, plus elle sera large, et plus le consommateur sera éduqué, plus il y aura de communication autour. C'est important qu'on puisse communiquer autour. Et on parlait tout à l'heure de la lutte contre le gaspillage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les 600 000 tonnes de vêtements qui sont mis sur le marché chaque année en France, seulement 200 000 sont collectés chaque année. C'est un tiers. Et sur ces un tiers, il y en a simplement 60% qu'on arrive à réutiliser. Donc, ce qui veut dire que véritablement chacun d'entre nous a un rôle lorsqu'il vide son armoire une fois par an ou à chaque saison, de ne pas le jeter dans la poubelle mais de le ramener dans les points de collecte pour qu'on puisse soit le recycler, soit le réutiliser. Et aujourd'hui, on a une grande marge de progression encore dans ce secteur-là.
On sait que les Européens jettent 4 millions de tonnes de vêtements par an en moyenne. Maj de Lisbaye, comment est-ce qu'on change les comportements des consommateurs? En les culpabilisant un peu, en les prenant par la main? Qu'est-ce qui marche?
Moi, je pense que l'offre doit changer, c'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut rendre accessible partout. C'est vrai que l'offre, si ce qui se présente à eux au quotidien, si c'est un vrai travail de recherche trop important de trouver une offre qui correspond à des critères environnementaux et sociaux positifs, ça ne peut pas marcher. Donc l'offre doit évoluer. Et ensuite, du côté des consommateurs, pour qu'ils soutiennent cette offre, pour qu'ils l'aillent vers elle, c'est une problématique qui concerne tous les secteurs. C'est-à-dire que les problèmes environnementaux sont tellement importants que ça dépasse notre entendement et que les gens ont du mal parfois à passer à l'action. Donc moi, je pense qu'il faut les informer. Mais ce qui est important aussi, c'est de rendre désirable ce changement pour eux, c'est-à-dire ces nouvelles pratiques de consommation, acheter moins mais mieux, consommer plutôt du seconde main et se tourner vers des marques engagées, traçables, y compris des grands groupes, mais qui prennent des initiatives. Et puis pour ça, rendre désirable, ce qui est formidable avec la mode, c'est que justement, c'est la mode, c'est un acte culturel. La mode, elle transmet des messages et elle a des outils marketing aussi de communication très puissants. Et donc, je pense que il faut les utiliser pour rendre désirable ce changement, pour rendre désirable ce choix d'acheter autrement. Mais pour moi, le changement de comportement, il est vraiment sur aussi de commencer par porter ce qu'on a dans son placard, acheter des vêtements plutôt en seconde main pour éviter justement ce grand gaspillage dont on a parlé. Et puis se réapproprier aussi ses choix vestimentaires, c'est-à-dire se reposer la question de ce qu'on a vraiment envie de porter, ce qu'on a vraiment envie de consommer. Et on en parle souvent aussi concernant toute la question de la consommation responsable. On dit que finalement, le changement, il est dans le fait de passer d'une société de l'avoir à une société de l'être. C'est-à-dire que ce qui me définit, ce n'est pas ce que je possède.
C'est quasi philosophique. Ouais.
Mais c'est très important parce qu'on s'adresse à des êtres humains qui ont des sentiments, des émotions, des envies. Et qui, c'est ça le ressort essentiel de l'achat de produits de mode pour des gens qui aiment la mode. C'est le fait de s'identifier, d'avoir envie de... Et donc, du coup, se re-questionner sur... qui j'ai envie d'être, comment j'ai envie de me présenter aux autres, quel message j'ai envie de passer au travers de mes vêtements et comment c'est important pour moi de savoir comment ils sont produits et dans quelle matière et dans quelles conditions. Eh bien, c'est un peu plus compliqué que juste dire, voilà. Mais la base, quand même, si on veut que ça touche tout le monde, c'est que l'offre évolue et c'est de ce dont parlait Yoann Petiot, c'est-à-dire que c'est tous ces engagements que peuvent prendre toutes les enseignes qui ont pignon sur rue, qui sont présentes partout et qui peuvent finalement être aussi elles-mêmes actrices de ce changement.
Yoann Petiot, justement, voulait réagir à ce qui vient
d'être dit. Oui, juste un petit mot. En effet, pour aller dans ce sens, on avait fait une étude l'année dernière avec l'Institut Kantar auprès de clients et ce qui ressortait, c'est que les deux critères de choix dans l'achat de vêtements, c'est d'abord le style. On reste vraiment un secteur de plaisir et de désir. On achète le vêtement que s'il vous plaît, que si vous arrivez à vous imaginer dedans. Donc, le style et le prix. Ça restera essentiel. On revient à la notion de l'accessibilité. Si la mode responsable veut réussir, elle doit être accessible.
On continue à parler de mode éthique et responsable juste après Barbagallo, la paix.
les souvenirs sont flous et filent sans fin au loin de moi. Je tends la main, je les retiens. Un bouleversé et l'air où tout vibrait. C'était hier, j'étais un autre. Tout ce que je voulais, tout ce dont je rêvais. Des trésors égarés, égarés aux aurores.
C'était La Paix et Barbagallo, la programmation musicale du débat de midi est signée Thierry Dupin.
Le débat du midi, Nadia Dam sur France Inter.
Les travailleurs bangladais n'en finissent pas de souffrir. Tous les matins, on se lève aux aurores, on va à l'usine, on travaille très dur toute la journée. Et tout ça pour faire des vêtements pour des gens partout dans le monde. Mais ces gens ne réalisent pas la difficulté de notre travail. Ils ne font qu'acheter des vêtements et les porter. Mais ces vêtements, on les fabrique avec notre sang. De nombreux travailleurs du textile meurent dans des accidents. L'année dernière, beaucoup sont morts dans l'effondrement du Rana Plaza. Ça a été une terrible douleur pour nous. Je ne veux plus que des gens portent des vêtements produits dans le sang. Je veux de meilleures conditions de travail. Je ne veux plus propriétaires d'usines comme celui du Rana Plaza, des propriétaires qui prennent des risques pour faire baisser les coûts et qui forcent leurs employés à travailler dans des conditions indignes. Je ne veux plus de morts, plus de mères qui perdent leurs enfants dans les usines. Plus jamais.
J'aimerais bien réagir en 2 secondes.
Ouais, c'est un extrait du documentaire de True Cost et on a entendu le témoignage terrible de Shima Aker. Elle travaillait dans l'immeuble du Rana Plaza. Quand il s'est effondré, c'était en 2013 au Bangladesh et qui a provoqué la mort de 1135 ouvriers, parmi lesquels des adolescentes. Depuis, il y a une loi française sur le devoir de vigilance des entreprises qui a été promulguée avec des résultats assez peu probants, en tout cas d'après Marie-Laure Guislain, responsable du contentieux à l'association Sherpa qui nous a rejoint par téléphone. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour.
Pouvez-vous détailler ce que prévoit cette loi sur le devoir de vigilance, qui est aussi surnommée la loi Rana Plaza ? Qu'est-ce que ça prévoit ?
D'abord, pour comprendre cette loi, il faut comprendre que dans tous les autres pays du monde et jusqu'à cette loi en France, les multinationales qui pourtant, comme dans l'industrie du textile, génèrent des milliards de dollars en faisant produire dans des pays où les conditions de travail ne sont pas toujours compatibles avec la dignité humaine, ne sont pas responsables pour autant juridiquement des graves violations qui pourraient survenir dans leurs filiales ou sous-traitants à l'étranger. C'est précisément ce qu'on a demandé au Parlement de changer avec l'adoption de cette loi.
En quelle année, rappelez-nous ?
Donc, depuis notre existence, on demande donc l'adoption de cette loi, notamment grâce à l'exemple du Rana Plaza et du cas Auchan, donc Auchan qu'on a attaqué pour pratique commerciale trompeuse, justement, pour avoir été présent au Rana Plaza.
On a retrouvé des étiquettes Auchan sur les vêtements, effectivement, dans les décombres, c'est ça ?
Tout à fait, et donc Sherpa, avec ses partenaires, a porté plainte contre Auchan pour pratique commerciale trompeuse, l'instruction est en cours, et Samsung a d'ailleurs été mise en examen sur ce même fondement récemment, ce qui devrait permettre de demander aux multinationales comme Auchan qui étaient présentes au Rana Plaza de bien vouloir respecter leurs engagements éthiques, leurs normes volontaires, au moins lorsqu'elles les publient. Mais cette pratique commerciale trompeuse ne permet pas d'indemniser les travailleurs. Donc l'intérêt de cette loi devoir de vigilance, c'est qu'elle demande aux multinationales françaises, les plus grandes multinationales, de respecter les droits humains sur toute leur chaîne de production, dans leurs filiales et sous-traitants à l'étranger, de prévenir les graves violations des droits humains et de réparer les dommages s'ils surviennent.
C'est-à-dire que les maisons mères qui doivent être responsables juridiquement en cas de dommages.
Tout à fait. Tout à l'heure, vous disiez moins produire, mais mieux produire. Mais comment inciter les multinationales à réduire leurs marges ? Elles ne vont pas le faire d'elles-mêmes si elles ne sont pas obligées de le faire. Donc pour nous, à Sherpa, une association de juristes et d'avocats, seul le droit contraignant va pouvoir encourager une réelle production responsable de la mode. Et c'est la raison pour laquelle on a demandé l'adoption de cette loi, qui aujourd'hui devrait changer les choses, puisque les engagements éthiques, les labels ne suffisent plus. Elles ont d'ailleurs permis, alors qu'elles existent depuis 20 ans, des graves accidents tels que le Rana Plaza que vous mentionniez tout à l'heure. Ouais. Mais le problème de cette loi, c'est qu'aujourd'hui, elle ne s'applique pas à toutes les entreprises. Par exemple, les grandes entreprises du textile telles que Zara ou H&M n'ont pas publié de plan de vigilance pour prévenir ces graves violations sur la chaîne de production. Et donc aujourd'hui, nous demandons aux législateurs de bien vouloir donc baisser les seuils de cette loi pour que plus d'entreprises soient tenues de respecter les droits humains sur leur chaîne de production, puisque pour nous, et pas seulement, mais pour des chercheurs et les multinationales d'ailleurs elles-mêmes aujourd'hui, seules des normes contraignantes permettront de réellement se dire qu'on consomme de façon éthique.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'après Rana Plaza, il n'y a pas un avant et un après, et que les grandes entreprises, les multinationales, continuent à avoir ce type de pratique. Il n'y a pas eu d'énormes prises de conscience, finalement, c'est ce que vous avez l'air de dire.
Malheureusement, il y a eu une multiplication des labels, une multiplication des outils de contrôle, mais qui restent donc des audits faits sur place insuffisants et qui ne permettent pas effectivement de responsabiliser réellement les acteurs pour des graves violations de droits humains à l'étranger. Donc seul le fait que ces entreprises soient sanctionnées si elles ne respectent pas les droits humains sur leur chaîne de production permettra aux consommateurs au final d'être tranquilles aussi sur le fait qu'ils consomme éthique. J'entendais vous inviter tout à l'heure et c'est extrêmement intéressant effectivement d'encourager le consommateur à consommer plus responsable. Mais pour nous, il ne peut pas être seul responsable de ce changement. L'État doit réguler l'activité des multinationales qui sont les principaux responsables et bénéficiaires de cette industrie de mode. Et je voudrais ajouter par rapport à ça que après donc cette loi historique unique en France, qui malheureusement comporte encore
des défauts,
mais qui peut être améliorée, et on pense vraiment qu'elle pourrait être améliorée, mais déjà c'est une grande avancée, et c'est la raison pour laquelle au niveau européen et international actuellement, un traité est en cours de négociation. Une pétition d'ailleurs est sur notre site Sherpa, des droits pour les peuples, des obligations pour les multinationales, pour que petit à petit, en fait, comme vous invitez le disait, on consomme et on produise différemment grâce au fait que l'activité des multinationales, qui reste quand même l'acteur le seul au monde qui n'est pas régulé dans sa chaîne de production, soit bien obligé de respecter ses droits humains et l'environnement, bien entendu, sur sa chaîne de production.
Dernière question, Marie-Laure Guislain. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'un nouveau Rana Plaza impliquant des entreprises françaises est possible ? Ça peut arriver ?
Tout à fait, malheureusement. Et c'est ce qu'a montré notre enquête. J'étais au Bangladesh en décembre 2014 dans le cadre du cas Auchan. J'ai interviewé beaucoup de travailleurs, bien sûr, de façon cachée, puisqu'ils craignent des représailles, et de façon anonyme, et aussi visiter des usines où nous avons pu constater, malheureusement, dans une note fournie au juge d'instruction, que les conditions actuelles dans les usines d'Auchan officielles restent extrêmement problématiques et un nouveau Rana Plaza pourrait avoir lieu. Après l'accord incendie et sécurité du Bangladesh, qui est un accord contraignant, contrairement à toutes les autres normes volontaires des entreprises, a beaucoup amélioré les choses sur place, puisque les audits ne sont pas faits par les entreprises directement, mais les audits sont faits par des inspecteurs internationaux dans le cadre de cet accord. Malheureusement, il reste encore beaucoup de choses à faire. L'accord est menacé par ailleurs et les entreprises comme Auchan, pour l'instant, ne sont pas condamnées pour des violations graves qu'elles auraient pu commettre à l'étranger.
Merci beaucoup, Marie-Laure Guislain, pour toutes ces réponses. Yoann Petiot, les entreprises que vous représentez avec l'Alliance du Commerce sont-elles irréprochables sur ces questions qui viennent d'être évoquées, sur les conditions de travail à l'étranger ?
Alors, d'abord un mot, parce que c'était en effet une tragédie et personne ne peut souhaiter que ça se reproduise. Et en effet, il faut absolument que la situation s'améliore. Peut-être un mot de plus sur la loi, sur le devoir de vigilance dont vous avez parlé. En fait, elle a été adoptée seulement au printemps 2017 et elle commençait à s'appliquer en 2018. Donc 2018, c'était hier, donc il faudra aussi pouvoir en tirer le bilan dans quelques mois. Les ONG, il y a un droit d'alerte hein, dans cette loi, c'est-à-dire que tout le monde peut exercer son droit d'alerte s'il a connaissance d'une situation critique dans les pays de production.
Encore faut-il qu'il en ait connaissance, et on n'est pas tous présents sur les chaînes de production au Bangladesh ou ailleurs.
Les ONG sont en effet dans leur mission sont des veilleurs indispensables. Elles agissent, alors je ne veux pas parler au nom de Primark et H&M, ce sont deux sociétés dont les sièges sociaux ne sont pas en France, puisque ce sont deux sociétés irlandaises et du nord de l'Europe. Voilà, mais Primark, dès 2017, a renouvelé son engagement dans l'accord sur la sécurité incendie, la sécurité des bâtiments au Bangladesh. Et un mot aussi, parce que je pense qu'il est bon aussi de rappeler les bonnes initiatives d'acteurs français, avec Gémeaux, qui lui a créé avec les pompiers au Bangladesh une cellule opérationnelle pour justement faire ces audits sur place et former les équipes locales pour qu'elles soient le plus à même justement d'assurer la sécurité de ces bâtiments.
Evelyne nous a posé une question à propos d'H&M, justement. Faudrait-il demander à H&M comment ils font pour sortir un maillot à 2,50 €, qui est au bout de la chaîne et comment sont payées ces personnes ? Géraldine Florin.
Alors, c'est pour ça que j'insiste.
Comment fait le consommateur pour être bien informé ?
J'insiste vraiment toujours sur le prix. C'est pour ça que pour moi, c'est pas qu'une histoire de prix. La mode, bien sûr, c'est du style, c'est un prix, mais pas que. Ça doit vraiment avoir un troisième critère qui est la traçabilité, la transparence. Ça n'existe pas. Un vêtement à 2 €, un t-shirt à 5 €, un vêtement à 3 €, ça n'existe pas. Si vous ne le payez pas, c'est qu'un enfant ou une personne le paye quelque part.
Le maillot de bain H&M à 2,50 €, il est forcément fabriqué dans des conditions effroyables.
Forcément. C'est pour ça que pour moi, il y a une prise de conscience urgente et qu'effectivement c'est toute la chaîne qui doit se réveiller et c'est ce qu'elle est en train de faire, chacun à son niveau.
Vous appelez à boycotter H&M et les enseignes de fast fashion, c'est...
Je les appelle à se remettre en question très très vite.
Dans le consommateur.
Bien sûr. Pas à boycotter la chaîne en soi, parce que ça existe, encore une fois, comme la grande distribution d'alimentation. On a des Auchan, on a des Leclerc, on a des H&M, on a des Zara. Mais si on va chez H&M, on achète la ligne Conscience, on en achète moins, on se pose la question.
La ligne éthique.
La ligne plus
pas
éthique,
100%,
pas 100%,
visiblement,
mais on va dire qu'au moins il y a un effort et qu'effectivement on se pose la question en regardant sa pièce, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je vais la porter vraiment? Est-ce qu'elle est suffisamment de qualité pour que je puisse ensuite la revendre ou la donner? Donc de mieux consommer encore une fois, c'est toute la chaîne de valeur qui doit bouger, bien évidemment, et ça n'est pas possible de respecter la nature et les hommes avec des prix comme cela, c'est impossible. Donc on a tous à revoir nos points. Je suis pas forcément tout le temps dans le jugement et la polémique. Je suis plutôt dans l'alerte et il faut qu'on y arrive ensemble. Et on a tous nos responsabilités du sourcing au consommateur final.
Sourcing, traduisez.
Pardon,
c'est les anglicismes, c'est...
C'est la matière, le coton bio, pas bio, la laine. Et puis, privilégier les circuits courts. À l'époque, on allait chez le tailleur, on savait que c'était le tailleur qui faisait notre tailleur avec ce tissu qu'on avait choisi. C'est remettre de l'humain. Moi, je rencontre, par exemple, des personnes comme Sherif Si ou Sakina Hamsa. C'est des rencontres
des
aussi.
Des créateurs.
Des créateurs, voilà. Ou quand on parle avec eux, on sait comment ils produisent, par qui c'est produit. Et franchement, quand il y a l'éducation et la transmission, c'est beaucoup plus facile de changer les mentalités. C'est vraiment une question de transmission, ce témoignage poignant. Si vous le faites, écoutez, les personnes comprennent. Et entre un t-shirt à 5 euros ou à 15, ils vont vite faire le choix. Il faut juste informer.
France Inter, il est midi 52, pardon, on écoute Métronomie. Midi 55, le débat de midi touche à sa fin. J'ai une dernière question pour mes invités.
Le débat de midi sur France Inter.
C'est la question rituelle du mois d'août. J'aimerais savoir avec quelle personnalité vivante ou disparue, célèbre ou anonyme, vous aimeriez pouvoir débattre, Géraldine Florin.
Pierre Rabhi, sans hésitation.
Le colibri.
Le colibri.
Yann Petiot.
Alors, peut-être un nom qui est moins parlant pour le grand public, mais Marguerite Dorangeon, qui est une jeune entrepreneur qui a créé Close Parency. On en a beaucoup parlé, mais c'est cette application qui, comme Yuka, permet justement aux clients d'avoir toutes les informations sur l'impact environnemental de son produit. Et je suis convaincu que c'est par la jeune génération justement qu'on va arriver à trouver les solutions et pas simplement par les grandes entreprises.
Majdouline Zbaï, même question.
Spontanément, j'ai répondu Jean Mallory. Ouais.
Pour quelle raison?
L'anthropologue, parce que qui a 96 ans aujourd'hui et que j'ai loupé à plusieurs reprises et qui est le fondateur de la collection Terres Humaines et qui a vécu parmi les Inuits et qui est un grand défenseur de la culture indigène et du climat et qui est un témoin.
Qui a publié de très beaux livres à ce sujet.
De très beaux livres et Le Dernier Ouatulé. Et donc vraiment, c'est un des personnages, je pense, qui pourrait nous apporter beaucoup à ouvrir nos chakras, notre imagination, notre vision d'avenir sur la manière dont on peut résoudre les problèmes auxquels on a à faire face en s'inspirant de ces cultures qui sont encore des cultures incroyables, des civilisations passionnantes qui ont vécu parmi des éléments hostiles dans le Grand Nord et qui ont su s'adapter, et c'est ce que je nous souhaite.
Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois pour votre participation à ce débat. Merci à Jérémy Guillon et Rémi Sistiaga à la technique aujourd'hui. C'était la dernière du débat de midi de l'été. J'en profite pour remercier très très chaleureusement toute l'équipe, Lucie Le Marchand, Caroline Pommès, Anna Massardier, Cyril Marchand, Camille Kaufmann. Lundi, France Inter fait sa rentrée à midi. Vous retrouverez Nagui pour la deuxième partie de la bande originale. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver sur cette même antenne chaque dimanche soir à 22h pour parler d'amour.